Charles de Foucault, 1858-1916, Charles de Foucault à Tamanrasset. Voici une conférence de Jean Subsol, membre de l'Université du Temps Libre de Bayonne, conférence enregistrée le 9 mars 2018 au Musée Basque, dans le cadre de l'Université du Temps Libre de Bayonne. Charles de Foucault à Tamanrasset, Jean Subsol.
Alors le père de Foucault a terminé son voyage au Maroc en 1884 et il revient à Paris pour s'y fixer en 1886. C'est-à-dire que pendant presque 2 ans, il est resté en Algérie, il a mis à jour ses notes de voyage, il a visité le sud algérien, Insala, El Golea, Ouarla et même Gardaïa, c'est-à-dire le Mzab. Et il arrive donc à Paris en 1886 et il loue un petit appartement aux 50 rue de Miroménil dans le 8e arrondissement. Il retrouve ses amis et retrouve sa famille, en particulier sa sœur très aimée, Marie de Foucault, qu'il appelle affectueusement Mimi, et sa tante Inès de Foucault, qui est mariée à un certain monsieur Moitessier. Monsieur Moitessier a fait une très solide fortune dans le négoce d'abord et puis ensuite dans la banque. Il y a une banque Moitessier à Paris à ce moment-là. Le couple habite un très bel hôtel particulier, 42 rue d'Anjou, à l'angle presque de la rue d'Anjou et du boulevard Malesherbes. Inès de Foucault est belle. Ingres a fait d'elle plusieurs portraits, dont un se trouve à Washington et l'autre dans un musée londonien. Et elle a une silhouette d'odalisque qui ne rappelle en rien celle des mannequins cachectiques de nos défilés de mode. Elle est cultivée, intelligente, mondaine, et elle tient le salon. Dans son hôtel particulier, elle reçoit tout ce qui compte à Paris, bon, des écrivains, des artistes, des hommes d'affaires, des hommes politiques, et bien entendu son neveu, Charles, qui est l'invité permanent de ce qu'elle appelle ses dimanches. C'est là que Charles de Foucault fait la connaissance de l'abbé Huvelin. Et il faut que je vous dise quelques mots d'abbé Huvelin, parce que ce n'est pas un homme ordinaire, et que de surcroît, il prendra une place très très importante dans la vie du père de Foucault, dont il est devenu le directeur spirituel. Henri Huvelin, qui est né en 1830, a d'abord été un lycéen très brillant. Il a eu le premier prix au concours général de grec. Étudiant, il a été reçu 4e au concours d'entrée de l'école normale supérieure de la Rulle. Et pour finir, excusez du peu, il a passé 3 agrégations. Une agrégation de lettres, une agrégation de philosophie et une agrégation de grec. Lorsque Charles de Foucault le rencontre, il est vicaire à la paroisse Saint-Augustin. C'est un poste qu'il occupera jusqu'à sa mort, ayant toujours refusé la chaire de professeur à l'Institut catholique de Paris qu'on lui proposait. Alors, pour Charles de Foucault, tout semble bien se passer. Il a retrouvé ses amis, sa famille, son aisance financière, et pourtant il est insatisfait. Il est insatisfait parce que ce n'est plus le gros Foucault de Saint-Cyr ou de Saumur. Il a été profondément marqué par son voyage au Maroc, par la religiosité de ses compagnons de voyage, par les invocations constantes à Allah, par les saintes prières quotidiennes. Et lui se plaint, il écrit à sa sœur Mimi, il se plaint de n'avoir aucun sentiment religieux. Alors un matin, à Saint-Augustin, au moment où on se prépare à célébrer la première messe du matin, l'abbé Huvelin, qui est dans son confessionnal, va rentrer un homme jeune qui se tient debout devant lui et qui lui dit « Monsieur l'abbé, je n'ai pas la foi, voudriez-vous m'inscrire ?»« Agenouillez-vous et confessez-vous, » fait l'abbé. « Mais je ne suis pas venu pour ça. Ça ne fait rien. Agenouillez-vous et confessez-vous. » Charles de Foucault s'exécute, l'abbé lui donne l'absolution et lui demande « Êtes-vous encore à jeun ?»« Oui, » fait de Foucault. « Eh bien, allez communier. » Et Charles de Foucault fait ce jour-là ce jour d'octobre 1886, il fait ce qu'il appelle sa deuxième première communion. Et il sort de Saint-Augustin, bouleversé, profondément transformé. Et il envisage très rapidement de devenir moine. Alors, l'abbé Huvelin, qui se méfie un peu de l'enthousiasme de ce néophyte, lui impose un temps de discernement que Jean de Foucault met à profit en s'instruisant, bien sûr, mais aussi en faisant des retraites dans les monastères de différents ordres monastiques, de manière à choisir celui qui apparemment lui conviendra le mieux. Et un jour, sa décision est prise, il sera trappiste et il ira à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, qui se trouve dans l'Allier. Alors il écrit au père abbé, il lui demande de le recevoir comme novice, le père abbé accepte, et à ce moment-là, Charles de Foucault prend une semaine pour dire adieu à sa famille, pour donner tous ses biens à sa sœur Mimi, et il part pour la trappe, soulagé de s'être ainsi allégé. Bon, à la trappe, ça se passe bien. La règle ne lui paraît pas aussi dure que ce que l'on dit de l'extérieur. Les conditions de vie, nourriture, logement sont très satisfaisantes. Mais il ne lui manque finalement qu'une chose, c'est un plus grand dénuement et surtout une plus grande pauvreté. Et il écrit à sa sœur, « Nous sommes pauvres pour les riches, mais nous ne sommes pas pauvres comme notre Seigneur, pas pauvres comme je l'étais au Maroc, pas pauvres comme Saint-François. » Et il demande au père abbé, Don Martin, demande au père abbé de l'envoyer en Syrie, à Agbès. La trappe de Notre-Dame-des-Neiges vient d'ouvrir en effet une abbaye, sœur, où il faut tout faire. Frère Marie-Albéric, puisqu'il a pris ce nom étant arrivé à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges le jour de la Sainte-Albéric, Frère Marie-Albéric et Pierre Léchamp, qui deviendront le potager du couvent, il y a des arbres, ici du bois, bref, ça va très bien. Et un jour, arrive un ordre, on lui enjoint d'aller à la trappe de Staouéli. Staouéli se trouve en Algérie. Alors vous voyez l'Allier, la Syrie, maintenant l'Algérie. La trappe de Staouéli est un établissement important au milieu d'un vignoble réputé. Et effectivement, les vins de Staouéli, c'était des vins blancs liquoreux, remarquables des proches parents de nos sauternes. Charles de Foucault est donc à la trappe de Staouéli et il reçoit l'instruction de se rendre à Rome pendant au moins 2 ans pour entamer un cycle de formation en théologie. Il logera à Rome dans la maison cardinaliste de l'ordre et il suivra les cours du collège romain. Donc il entame son cycle de formation, il écrit à sa sœur que le travail intellectuel ne lui convient pas, qu'il est nul, et que malgré ses efforts, il n'a absolument aucun résultat. Ben, ça fait rien, il boucle son cycle de théologie, et il repart à Notre-Dame-des-Neiges. Et alors là, il a un choix à faire, un choix difficile. Il y a 5 ans qu'il a prononcé ses premiers vœux. Donc maintenant, il faut qu'il choisisse soit prononcer des vœux définitifs, auquel cas il sera arrivé à son monastère, ou alors ne pas prononcer ses vœux, quitter l'ordre. Grâce au père abbé et grâce à l'abbé Huvelin, le père général de la trappe l'autorise à ne pas prononcer ses vœux et à suivre la route que lui indiquera sa vocation particulière. Et aussitôt, Charles de Foucault reprend la route vers le sud et cette fois il arrive à Nazareth, en Palestine. En Palestine, il faut qu'il trouve un métier, un emploi pour gagner même sa maigre pitance. Et la mère abbesse du couvent des Clarisses de Nazareth, mère Saint-Michel, recherche un homme capable d'entretenir le potager du couvent, de faire quelques menus travaux, et surtout, puisqu'il peut sortir librement du monastère, d'aller à la poste pour retirer et porter du courrier. Les religieuses de Nazareth sont très sensibles aux qualités de Foucault, à sa piété, à son ascétisme et à son travail. Et ça lui vaut d'être recruté par l'abbesse sacristaine du monastère. Les mères Saint-Michel trouvent que cet homme ferait mieux d'entamer un autre cycle d'études qui l'amènerait à l'onction sacerdotale. Mais prudente, elle voudrait avoir l'avis de l'abbesse de Bethléem, de Jérusalem, Mère Élisabeth du Calvaire. C'est donc comment persuader Jean de Foucault d'aller à Jérusalem. Alors, Mère Saint-Michel fait un pieux mensonge. Elle lui dit, ben voilà, j'ai du courrier important à porter, à envoyer à Jérusalem, mais je n'ai pas très confiance dans la poste. Alors pourriez-vous l'amener et le remettre en main propre? Bon, bien sûr, de Foucault accepte, mais il accepte à ses conditions. Il partira à pied, c'est pas la peine de dépenser de l'argent pour un bon transport. Et il ne veut pas d'ailleurs d'argent parce qu'il mendiera tout au long de son chemin ses connaissances en arabe lui permettant de le faire. Il arrive à Jérusalem, est reçu par la supérieure du couvent, Mère Élisabeth du Calvaire. Il discute avec lui, qui elle aussi est très impressionnée par sa piété, par son ascétisme. Elle dit même à ses filles, nous avons un saint homme parmi nous, Dieu nous a envoyé un saint à la maison. Et elle sonde un peu le père de Foucault, enfin, pas le père de Foucault encore, Charles de Foucault, et du même avis que l'abbesse de Nazareth, et elle dit à Charles de Foucault de suivre ses études et d'arriver à la prêtrise. Ce à quoi Charles de Foucault fait songer et la Bible aussi. Alors, retour à la trappe. Retour en métropole, retour à la trappe Notre-Dame-des-Neiges. Là, comme il a beaucoup prié, qu'il a beaucoup travaillé, sa vocation est largement reconnue, on abrège pour lui le cours des études. Il est arrivé à la trappe en janvier 1901, et on abrège le cours des études. Et il arrive en 1900 à Notre-Dame-des-Neiges, et le 9 juin 1901, il est ordonné prêtre et célèbre sa première messe. Le voilà donc, père de Foucault. Il voit un peu sa famille et puis il repart. Il repart, bien sûr, encore vers le sud. Et il veut aller à Béni-Abbesse. Bon. Mais pour aller à Béni-Abbesse, il lui faut à la fois les autorisations ecclésiastiques, dont l'autorisation de Mgr Guérin, qui est le préfet apostolique du Sahara, et il lui faut l'autorisation des autorités militaires, parce que le sud algérien est à peine pacifié. Il obtient tout ça, et il arrive à Béni-Abbesse. Béni-Abbesse, c'est une petite palmeraie de 7 à 8 000 palmiers au sud de Colombéchard, et tout près de la frontière marocaine. Il est accueilli à bras ouverts là-bas. Il est sorti, pour les officiers, c'est quelqu'un qui est sorti de Saint-Cyr, qui est sorti de Saumur, qui a été officier de cavalerie, et c'est donc un des leurs. Et pour le reste de la troupe, c'est un Français qui accepte de vivre dans leurs conditions, et qui est de surcroît un prêtre. Donc il est très bien accepté, et la troupe l'aide à construire son premier ermitage. Alors l'ermitage, c'est une grande pièce qui sert de chapelle. prolongée par une autre pièce qui sera le bureau, la bibliothèque et une salle de réception pour les visiteurs éventuels. Et pour lui, une petite cellule, il en montrera ensuite deux autres parce qu'il ne désespère pas d'avoir des disciples, pas des disciples, mais des religieux qui voudraient partager sa vie. C'est à Béni Abbès qui rencontre pour la première fois le général Lyoté et qui retrouve un ancien de Saumur, le commandant Henri Lapérine, qui est commandant supérieur des troupes sahariennes. Henri Lapérine fait des tournées dans le sud, il fait des tournées d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il va approvisionner les postes militaires qui sont perdus dans la nature, et en même temps, il voit les campements, les tribus, les petits centres de culture. Et il demande à Charles de Foucault s'il accepterait de se joindre à eux. Charles de Foucault, bien sûr, accepte. Et il va participer à ce que lui appelle des tournées d'apprivoisement. Alors, il participe à plusieurs tournées, il fait des allers-retours entre le sud saharien et son ermitage de Béni Abbès. Et un jour, le lieutenant-colonel Lapérine, puisqu'il a été promu, lui dit, voilà, j'organise une grande tournée vers le sud. J'ai un rendez-vous avec la mélancale des Douarés Gogar, Moussa Ganastan. Est-ce que vous voudriez venir avec nous? Bien sûr, ça intéresse terriblement le père de Foucault. D'abord parce qu'il va connaître des Touaregs et voir un peu comment ça se passe. Et en même temps, il obtiendra peut-être l'autorisation de se rendre à Tamanrasset. Donc il descend sur Avar, récupère la colonne Lapérine et il descend vers Tamanrasset. Il s'arrête au lieu de rendez-vous fixé. Il retrouve Moussa Damastan, il va passer 15 jours avec eux. Et le courant passe entre Moussa et De Foucault. Pour le père de Foucault, Moussa Damastan est un homme ouvert et sympathique. Et pour le Touareg, Charles De Foucault est déjà un grand marabout tout à fait respectable. À la fin de la tournée, le lieutenant-colonel Lapérine lui dit vous avez une possibilité de descendre vers Tamanrasset et l'Ogar avec la compagnie méhariste du Tidikèdre. Et voilà, mon père de Foucault partit vers l'Ogar. Alors, il arrive, là il faut que je reprenne mes notes parce que j'ai de la lecture à vous faire. Il arrive donc, dans l'Ogar en 1905 et il décide de s'établir dans ce village de 20 feux en pleine montagne au cœur du Ogar à l'écart de tous les centres importants. Il ne semble pas que jamais il doive y avoir ici garnison, télégraphe ou européen. Je choisis ce lieu délaissé et je m'y fixe. Alors, là, j'avais commencé à vous passer quelques photos. Vous excuserez la qualité de ces photos parce qu'elles ont été prises entre 1958 et 1963. Certaines ont plus mal vieilli que d'autres. Alors, il arrive à Tamanrasset et il découvre d'abord le paysage. Alors, le paysage, voilà l'Adriane. L'Adriane, c'est une gara, c'est un sommet tabulaire. Et pour Tamanrasset, c'est un relief, enfin, un massif tout à fait mythique, un peu comme la ruine pour la côte basque. Devant l'ouest Tamanrasset, et voilà l'Adriane encore, l'ouest Tamanrasset avec quelques touffes d'herbe qui vont servir de pâturage aux chameaux, et il voit la maigre végétation, il rencontre des arbres, il découvre des arbres comme celui-ci qui est le tala. Le tala, c'est un acacia tortilis. Et vous voyez ces fleurs et ces épines qui sont très acérées et qui sont capables de percer des pneus de voitures légères. Mais malgré tout, c'est une excellente nourriture pour les chameaux. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est comme ça. En outre, dans l'Ouest, où l'humidité est un peu plus grande, parce que la nappe phréatique affleure par endroits, il y a ce genre de buisson, la granga. C'est un arbuste avec des feuilles larges, lancéolées, d'un beau vert, qui sont vernissées. Et si vous cassez une de ces feuilles, vous allez voir s'ouvre à la cassure une sève blanchâtre qui est capable de provoquer des ophtalmies pouvant conduire jusqu'à la cécité. Et puis, ayant découvert son environnement, il découvre aussi, voilà encore le Tessengel, ça c'est encore une herbe à chameau, et il commence à construire son ermitage. Alors l'ermitage, aidé par les indigènes, c'était une pièce qui ressemble plutôt à un long couloir, qui mesure 6,50 m de long sur 1,75 m et 2 m de large, simplement parce qu'il n'y a pas de haute futaie dans le hogar, et donc il faut faire les toitures avec les branches tordues que l'on trouve. Et pendant que se construit cet ermitage, le père de Foucault va dormir dans une zéliba, ces espèces de huttes en bottes de d'herbe, qui sont plus fraîches d'ailleurs en été que les tentes ou les constructions en dur. Et il découvre aussi les Touaregs. Alors, les Touaregs, enfin la population de Tamanrasset, il découvre. C'est-à-dire qu'il découvre à la fois les Touaregs, là c'est la photo classique des méharistes Touaregs, les Touaregs qui sont des berbères, de taille élancée, blancs de peau, et qui ont un nez droit, et pas du tout de très négroïde. Alors ça, c'est une tarliade de grande tente. Et à côté, vous avez les haratines. Les haratines qui sont des cultivateurs au service des Touaregs, ce sont souvent d'anciens esclaves rasiers au Niger ou au Soudan. Et vous voyez, ils n'ont pas du tout la même allure que les nobles. Voilà une autre femme. Alors et voilà, je vous présente Neptune. Tiens. Neptune, c'est un employé municipal. C'était un employé municipal. L'employé de l'annexe de Tamanrasset. C'est lui qui était chargé de répartir l'eau dans les différents jardins, jardin municipal de l'annexe et jardin des villas des Européens ou des officiers ou sous-officiers des affaires sahariennes. Et en même temps qu'il découvre les Touaregs, auprès des nobles, il découvre la langue des Touaregs. Alors cette langue, c'est une langue berbère que l'on appelle Tamaak dans le Hogar et Tamashek plus au sud, en particulier vers le Soudan et dans l'état Sili. Alors c'est une langue qui s'écrit avec des caractères bizarres dont certains donnent le sens de la lecture. Par exemple, vous avez le D fort ou vous avez le M. Suivant l'orientation des branches de ces lettres, vous pouvez lire les caractères de droite à gauche, de gauche à droite, de bas en haut ou de haut en bas. Et deuxième particularité, cette langue n'a pas de voyelle. Alors vous voyez ici Tamanrasset écrit, sur la ligne supérieure, vu l'orientation de la lettre M, vous les allez lire cela de la gauche vers la droite. Et la première lettre va être le T, la deuxième va être le M, le troisième va être le N, la quatrième le R, la cinquième le S, et la dernière le T. Et en dessous, c'est le même mot, mais lu en sens inverse, puisque l'orientation des tifinars est différente. Ce que l'on remarque aussi, c'est que cette langue n'a pas de voyelle. Et alors, quand un Touareg veut lire, par exemple, Tamanrasset, il va chantonner jusqu'à ce qu'il retrouve à l'oreille les sons manquants qui vont donner un sens au mot. Oui, nous sommes en 1905. Excusez-moi, je me perds dans mes notes. Voilà. Alors, lors de ces tournées avec la Périne, De Foucault avait connu, avait fait connaissance d'un interprète militaire, M. de Montilinski, avec lequel il avait beaucoup sympathisé et avec lequel il avait beaucoup travaillé, à la fois son arabe et puis le touareg. Et en 1906, Montilinski arrive. Il va passer 3 mois à Tamanrasset, durant lesquels les travaux de linguistique vont considérablement avancer. En effet, le père de Foucault, dès qu'il s'est débrouillé un peu en touareg, en tamaak, a commencé à rédiger une grammaire et un dictionnaire français-touareg et touareg-français. Depuis son arrivée à Tamanrasset, le père de Foucault éprouvait une souffrance très vive parce que, étant tout seul, sans servant, il ne pouvait célébrer la messe. Alors il avait bien conservé quelques hosties consacrées dans lesquelles il passait de longues périodes d'adoration, mais il ne pouvait pas célébrer la messe. Et en début juillet 1908, il apprend avec une très grande joie que le pape Pie X l'autorise à célébrer la messe sans servant. Alors là, c'est une joie extraordinaire. Bon, sur son dière, on retrouve pleurs de joie de Pascal. Hein. C'est absolument extraordinaire. Dans le courant de cette même année 1908, l'armée décide d'établir un poste permanent à Tamanrasset. Et le père de Foucault retrouve sa formation d'ancien officier et aide l'officier de la compagnie Méharis à choisir un emplacement. Ce sera à côté de Tamanrasset, dans un petit village, dans un petit centre de culture qui s'appelle Tarawaout. Et ils vont donc faire un fort que l'armée souhaiterait appeler Fort de Foucault, ce à quoi le père de Foucault se refuse absolument, et ce sera le fort Montilinski. Nous, quand nous y étions, on voyait encore très bien des ruines de ce fort Montilinski. Et en même temps, à Tamanrasset, il fait bâtir pour la Menokal Moussa Gamastan un palais dont il ne restait plus de cette porte, avec une vue sur l'Adriane. Le Hogar est un massif volcanique. Vous avez un exemple, cette photo est un peu pas mal délavée, mais vous avez un exemple des pics du Hogar. Ça, c'est le pic La Périne. Alors vous voyez la partie verticale qui est composée de roches volcaniques, basaltes ou laves. C'est ce qu'il y avait dans la cheminée du cratère. Et les bords du cratère ont été érodés, si bien que vous avez ce relief-là. Certains ont comparé ça à de la pâte qui sort d'un type de dentifrice et qui se solidifierait instantanément. En 1910, il perd deux amis, deux grands amis, d'abord le Monseigneur Guérin et puis l'abbé Yvelin. Et le colonel Lapérine, il est passé colonel maintenant, le colonel Lapérine qui a demandé à rentrer en France pour prendre le commandement d'un régiment, organise un voyage pour la Menokal des Touaregs, Moussa Gamastan et quelques-uns de ses compagnons. Alors on va amener ces nobles touaregs en France, on va les faire assister à des expériences de tir au Creusot, parce qu'il faut bien montrer la puissance de feu de la France. On leur fait visiter des haras, des usines, Paris, et même, tenez-vous bien, le Moulin Rouge. À son retour, Moussa écrit au père de Foucault, j'ai vu ta sœur et je suis resté 2 jours chez elle. J'ai vu de même ton beau-frère. J'ai visité leur jardin et leur maison. Et toi, tu es à Tamanrasset comme le pauvre. Le père de Foucault a envisagé, enfin, il a décidé de bâtir sur le plateau de la Sécrène un ermitage. En effet, bien que Tamanrasset soit, la température y soit moins élevée que dans notre coin du Sahara, puisque Tamanrasset est à 1400 mètres d'altitude, la chaleur quand même en été est certaine, le climat est extrêmement sec, et donc sur une longue durée c'est un peu difficile à supporter. Alors le père de Foucault décide de construire un ermitage sur le plateau de la Sécrème, qui lui se trouve à 2700 mètres d'altitude. Et en 1911, il part. Alors voilà, vous voyez le relief du Haut-Gard, si je vous parlais de roches basaltiques, voilà des orgues basaltiques. Et avec ces colonnes, on faisait à Tamanrasset à l'époque les bordures de trottoirs. Hein, ce sont des colonnes très droites et qui sont pentagonales ou hexagonales. Et voilà l'arrivée sur la Sécrème, le col de la Sécrème. Ceux qui sont allés, qui ont fait du. À l'époque, c'était le Touring Club de France, reconnaîtront le refuge du Touring Club de France. Et autour, ces cercles de pierre, ce sont les agrores dans lesquels dormaient les ouvriers qui réparaient la piste, ou dormaient même, quand le refuge était fermé, les femmes qui avaient passé la journée à la Sécrème et qui ne pouvaient pas dormir sur le plateau. Donc nous avons, ma femme et moi, dormi un hiver dans un agore comme ça, il faisait moins sec au sol, c'était assez sympathique. Alors, voilà le type de construction de la Sécrème, ça c'est une cellule, et le père de Foucault, bien sûr, voilà, un des occupants de la Sécrème, ça c'est un petit frère de Jésus, petit frère du père de Foucault, c'est le père Jean-Marie Cortade, c'était un ancien officier de marine, veuf, et il continuait à la Sécrème, à mener une vie quasi érémitique, et à continuer l'œuvre du père de Foucault sur le plan de la prière, bien sûr, mais aussi sur le plan de l'accueil des indigènes. Alors vous voyez à droite, tout à fait à droite, il y a un petit négrillon trappé dans une couverture parce que c'est l'hiver, et le père va lui donner le contenu d'un verre de sucre et d'un verre de thé. Et bien entendu, la première construction, c'est pas la construction d'une cellule, c'est la construction de la chapelle. Voilà l'intérieur de la chapelle. Tout ça, ça a été fait par le père de Foucault et des indigènes. Alors, c'était une chapelle extrêmement dépouillée, où les petits frères célébraient des messes extraordinairement brillantes et très dépouillées, sans encensement ni aspersion multiples. Et ce que voyait le père de Foucault, c'est ce paysage quand il ouvrait la porte, c'est-à-dire qu'il voyait le Haut-Gard, ce qu'il appelait sa forêt de pierre. Et il aura longuement médité devant ces paysages. Voyez, alors, je vais vous montrer, je dois l'avoir ici, voilà, le type de relief, la Savinam. La Savinam, c'était le doigt, c'est la pointe de Foucault. Là, voilà, fait de la piste. Et voilà le paysage. Alors, vous avez à droite, enfin, le plus à gauche sur la photo, vous avez la Savinam, le doigt. Ensuite, ce sommet aux trois pointes qui ressemble un peu aux trois couronnes chez nous, c'est le Houl. Et les deux autres, ce sont les deux Tézouailles, le Tézouaille nord et le Tézouaille sud. Et on voit aussi ce très beau massif, c'est celui de l'Ilaman. Alors l'Ilaman, il y a une légende. Il y avait deux montagnes Amjer et Tararat. Amjer était un homme, Tararat était une femme, et les deux s'aimaient. Et voilà qu'Ilaman s'éprend aussi de Tararat. Alors Amjer n'est pas du tout content, il est jaloux et il va faire des reproches à Ilaman, qui un peu le sang chaud, alors Ilaman colle un coup de lance à Amjer, qui riposte, sort son épée, s'attaque au bas, et il donne deux coups d'épée dont on voit encore les cicatrices à droite et à gauche sur le mont. Bon, ça calme bien entendu les ardeurs d'Ilaman, mais Amjer et Tararat décident quand même de s'éloigner un petit peu de ce voisin irascible, et ils s'en vont un peu, on les retrouve maintenant encore, ils sont reliés par une petite chaîne, et sur le flanc d'Amjer, il y a une source, ce qui montre que la blessure, n'est pas son coup de lance, cette blessure n'est pas encore cicatrisée. Au pied de l'Ilaman, vous avez une mosquée Touareg. Et comme il y a eu un peu de pluie, il y a quelques fleurs dans les cailloux. Voilà le massif de l'Ilaman, et cette tache claire au pied, c'est le cirque de l'Ilaman. Alors, on demandait à un Touareg pourquoi on voyait le cirque de l'Ilaman, c'était un emplacement primitif, alors que l'on ne savait pas d'où était parti exactement Amjer et Tararat. Et le Touareg expliquait que quand un homme en colère quitte son campement, il ne prend qu'une précaution et donc il laisse des traces. Tandis qu'un homme qui part calmement, sans être bousculé, nettoie le terrain où il campait et on ne trouve aucune trace. Ici, vous avez le Taat. Le Taat qui est le point culminant du Hogar. Alors, nous, quand on faisait des relevés barométriques pour mesurer l'altitude du Taat, on a trouvé des valeurs entre 3003 et 3010 mètres. Alors, je ne sais pas maintenant s'il y avait les mesures satellitaires, le Taat a rapetissé ou au contraire un peu grandi. Et alors, à côté, vous avez cette espèce de chapeau de Napoléon avec une fente au milieu. C'est la Pararor, c'est encore toujours le même relief, toujours ces colonnes basaltiques. Alors, nous sommes là, nous arrivons en 1916. 1916, il y a eu... je voudrais revenir un peu avant. Le père de Foucault ne s'est pas contenté de faire du tourisme à la Sécrène. Il a aussi échangé une très importante correspondance avec des amis, sachant que le courrier officiel mettait 3 semaines pour venir d'El Goléat à Madrasset, et le courrier privé, il fallait entre un mois et demi. Et dans une de ses lettres, d'une lettre qu'il reçoit, un ami lui apprend que le Maroc est entré dans le protectorat avec la France. Alors il répond aussitôt, « Voilà notre empire colonial bien agrandi. Si nous sommes ce que nous devons être, si nous civilisons au lieu d'exploiter, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc seront dans 50 ans un prolongement de la France. » Si nous ne remplissons pas notre devoir, si nous exploitons au lieu de civiliser, nous perdrons tout, et l'union que nous avons faite de ce peuple se tournera contre nous. Là, c'est écrit en fin 1911, et c'est assez prophétique. Fin 1911, aussi 1912, il organise un voyage avec un jeune Touareg, Ouxem, qui est le chef d'une tribu noble, la tribu des Dagrani. Alors, ils arrivent en France le 10 juin, et ils font découvrir à Ouxem la France de Lyon-Mont-Blanc, la mer de glace, en passant par le Périgord, la Bourgogne et même la Suisse. Ils lui apprennent aussi, le père de Foucault et sa famille, bien sûr, ils lui apprennent aussi à monter à bicyclette et même à tricoter. Parce que le père de Foucault s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de maladies pulmonaires dans le Haut-Gard, parce que le climat en montagne était froid, et que les gens étaient très mal vêtus, avec des cotonnades légères, et qu'ils n'avaient pas sur la tête, ils se mettaient en chèche, mais enfin, ils auraient été mieux avec un bonnet de laine. Donc ils apprennent aux Touaregs à tricoter. Alors ce sont les premières et dernières vacances que le père de Foucault passera en France. Et on arrive, et alors ils reviennent à Tamandracet en novembre 1913. Et nous voilà en 14. Alors, sur son pierre, le père de Foucault note certaines choses. 8 mai 1914, commençait la mise en nette du dictionnaire français Touareg. Le 31 juillet, il en est à la page 385. Le 31 août, il en est à la page 550. Mais le 3 septembre, à 5h du matin, un courrier de Formantinensky lui apprend que l'Allemagne a déclaré à la France envahir la Belgique et attaquer Liège. Alors, sur le plan local, le commandant du Fort Montilinski réunit un groupe d'une trentaine d'indigènes. Et le père de Foucault voudrait bien rentrer en France et être mobilisé pour défendre la patrie. Or, il n'a pas l'autorisation de le faire. On lui dit qu'il sera bien plus utile sur place pour calmer les ardeurs éventuelles. Alors, vers la Libye, il y a des mouvements d'une confrérie, les sénoucistes, la confrérie La Sénoucia, du nom de son fondateur, et l'Empire ottoman, à l'époque, est allié de l'Allemagne, et donc cette confrérie qui est issue aussi de l'Empire ottoman, voudrait bien s'étendre dans le sud algérien et aller peut-être vers le Maroc. C'est un peu les ancêtres de Daesh, si vous voulez. Et donc, ils ont déclenché la Terre Sainte, ils sont partis de Tripolitaine, ils veulent aller rentrer au Sahara, et ils livrent combat contre des postes qui sont très peu peuplés, où il y a très peu de soldats. Par exemple, dans la Formantinensky, en période de paix, il y avait un officier, deux sous-officiers ou trois sous-officiers, c'est-à-dire quatre personnes, et ils recrutaient sur le plan local des auxiliaires, des morasnis, mais autrement, c'était des postes où il y avait très peu d'effectifs. Et là, les sénoucistes s'empare de Janet. Alors, Janet, ça ouvre la frontière, ça ouvre le passage pour descendre vers Tamandracet. Fort Montilinski est difficilement défendable. Alors, le père de Foucault va aider le lieutenant qui commande le poste à trouver un endroit un peu dans la montagne qui pourrait être facilement défendu par une troupe armée de fusils. Et le père de Foucault vient à son nouvel ermitage qui est ce fort que vous voyez là. C'est un véritable fortin carré de 16 mètres de côté avec des murs de 2 mètres d'épaisseur, un fossé, une porte extrêmement étroite où l'on est très basse, on ne peut rentrer qu'un par un et en étant tout à fait courbé. Et devant la porte, il y a un mur pare-balles. Donc, il se réfugie là. Alors, ce fortin a été approvisionné. Il y a des armes, il y a des munitions, il y a des vivres. Au centre de la cour, il y a un puits profond de 6 mètres, un puits permanent. Et tout autour, il y a, en plus de la chapelle, bien sûr, il y a des pièces, une cellule pour le père, et puis des pièces pour les, des villageois qui voudraient se réfugier dans le fort. Le 1er décembre 1916, à la tombée de la nuit, il y a une quarantaine de sénoncistes armés entourent le fort. Il est imprenable, sauf si on fait sortir le père de Foucault. Alors, dans ce groupe de sénoncistes, ils ont pris aussi des gens du village. Il y en a un, El Madani, qui frappe et qui s'annonce comme étant le postier de Motilinski. Le père de Foucault, sans méfiance, ouvre la porte, sort, est immédiatement saisi, il a les mains attachées derrière le dos et il est traîné devant le mur du fort. Les sénoncistes rentrent dans le fort, le pillent, enlèvent tout, et tout d'un coup, les sentinelles qu'ils ont postées donnent l'alerte. Il y a deux méharistes qui viennent vers eux. Les sénoncistes pensent que c'est l'avant-garde d'une troupe plus nombreuse qui descendrait du fort Motilinski. Un échange de coups de feu a lieu, les deux méharistes sont abattus et le sénonciste, un jeune qui gardait le père de Foucault, pris de peur, lui colle une balle dans la tête. La balle lui traverse le crâne et va se ficher dans le mur, voyez, au centre de ce petit cadre que vous avez sur la tour de droite. Alors, évidemment, il y a depuis le temps, tout le monde a cherché la balle du capturé père de Foucault. Et si bien que l'entrée de la balle, c'était plutôt celle d'un obus de petit calibre que d'une balle de fusil. Et les militaires, alors il est aussitôt enseveli, les deux militaires tués aussi, et les sénoncistes déguerpissent. Alors ensuite, le capitaine qui commande le secteur du Haut-Gard peut se rendre à Tamanrasset. Il exhume le père de Foucault et les deux Morasny pour les enterrer sur un terre-plein qui est à côté du fort. Et il a fait rendre les honneurs militaires. Après, c'est le général Lapérine qui vient. Et on élève une espèce d'obélisque. J'en reviens au fort. Alors voilà l'intérieur du fort. Vous voyez, c'était l'église paroissiale. Alors, on en revient au mode de construction dans le Haut-Gard. Vous voyez le plafond. Il n'y a pas d'arbre de haute futaie, donc on utilise ce que l'on trouve, c'est-à-dire des branches de 2 mètres de long, assez fines souvent, qui sont donc entrelacées. Sur ces branches, on colle une couche d'herbe venue du Soudan ou du Niger, et par-dessus, bien sûr, de la terre. Donc les pièces ressemblent plutôt à un long couloir qu'à une pièce qu'on sait où nous trouvons. Alors, là, c'était l'église paroissiale. Alors, c'était avant le concile, donc l'autel, la messe n'était pas dite face au peuple, donc l'autel est placé au fond. Et voilà, alors toutes ces toiles décoraient l'ermitage de Béni Abbès. Toutes ont été faites par le père de Foucault, et ça, ce sont des copies. Voilà le monument à Lapérine. Vous avez, au milieu des arbres, vous avez cet obélisque qui a été dressé. Au pied, vous avez la tombe du général Lapérine. À droite et à gauche, il y avait celle des deux Morasny. Et dans l'obélisque, il y avait un coffret contenant le cœur du père de Foucault. Alors, en 1920, le général Lapérine part de Tamanrasset en avion pour descendre vers le Soudan. Et leur avion tombe en panne, se crache en plein désert. Le général Lapeyrine est blessé, mais il n'y a aucun secours médical, donc il meurt. Il est ramené enroulé dans l'étoile de l'avion et amarré sur le dos d'un chameau. Et il revient à Tamanrasset où il est enterré. En 1927, commence le procès, la procédure de béatification de Charles de Foucauld. Alors, son corps est exhumé, alors qu'il avait demandé expressément de jamais l'être. Son corps est exhumé et est amené à Elgolea. Par contre, son cœur est ramené à Tamanrasset et mis dans cet obélisque. Le père de Foucauld est déclaré vénérable par Jean-Paul II en 2001 et béatifié en 2005 par Benoît XIII. Et arrive l'indépendance de l'Algérie en 62. Nous, à Tamanrasset, le génie militaire fait sauter le monument à Lapeyrine et des avions militaires, on organise une belle prise d'armes et les corps du père de Foucauld, du général Lapeyrine et des deux Morasny et le corps du père de Foucauld sont amenés pour Lapeyrine vers la métropole et pour le cœur du père de Foucauld à Béni Abbès. Mais ça ne suffit pas et en 2006, tous les restes sont transférés à la trappe Notre-Dame-des-Neiges et ils reposent désormais dans un oratoire qui leur a été dédié. Le père de Foucauld a eu très tôt, le désir de fonder une congrégation. Et alors ce désir a été réalisé. En 1933, la congrégation des petits frères de Jésus est fondée par le révérend père de René Voyaume. Alors cette congrégation, évidemment la spiritualité de cette congrégation, s'inspire des écrits laissés par le père de Foucauld et par le parcours de vie qui a été le sien. Et en 39, alors en 2015, il y avait environ 208 religieux de plus de 30 nationalités réparties en 71 communautés. Ce sont des toutes petites communautés qui vivent non pas dans des couvents, mais au milieu du peuple. Et en 39, en Algérie, a eu lieu la fondation des Petites Sœurs de Jésus par Madeleine Hutin. Et c'est une congrégation de religieuses contemplatives au milieu du monde. Et là, elles sont plus nombreuses, elles sont environ 1350, réparties en petites fraternités, essentiellement au milieu d'islam, et totalement immergées dans le monde. Et en France même, il y a des paroisses Charles de Foucauld, par exemple à Saint-Cyr-Coëquidan. Il y a une paroisse Charles de Foucauld avec deux chapelles, une la chapelle des élèves qui est à l'intérieur du camp, et l'autre qui est la chapelle des familles qui se trouve dans la zone où sont logées les familles d'officiers, sous-officiers. Voilà ce que je pouvais vous dire du père de Foucauld. J'aurais pu vous raconter, je pourrais peut-être encore vous raconter la légende de l'Adriane. Alors, l'Adriane, à l'origine, était un sommet tabulaire, une gara, et sans brèche. Or, il y avait à cette époque-là, à Tamanrasset, une tribu nomade, où il y avait deux hommes, un s'appelait Amamélène et l'autre s'appelait Elias. C'était deux guerriers valeureux, de nobles, cultivés, sachant lire les tifinards. Et comme ils étaient beaux garçons, ils avaient du succès auprès des Targiates. Sauf que Elias avait toujours un petit plus qu'Amamélène. Il était un peu plus valeureux, il était un peu plus cultivé, et il avait un peu plus de succès. Si bien qu'Amamélène, très jaloux, décide de l'abattre. Alors il le rencontre, il dit, tu sais, je suis embêté, je vois un service à te demander. Ben oui, bien sûr. Voilà, mon père voudrait que j'amène nos chameaux à un puits qui se trouve au sud de Tamandrasset, à 8 km de là. Parce que moi, tu comprends, j'ai un rendez-vous, enfin ça va peut-être marcher, alors ça m'ennuie, bon, ben écoute, te casse pas la tête, je vais amener tes chameaux. Alors il se retrouve, Elias prend en charge le troupeau de chameaux, et il s'en va vers le puits. Et tout d'un coup, il voit il voit un groupe de gens qui remontaient vers lui et qui n'avaient pas l'air d'être animés de l'intention très amicale. Alors, il est tout seul, les autres sont nombreux, donc il décide de faire demi-tour et de regagner son campement où il trouvera du renfort. Il fait demi-tour et, de l'autre côté de l'Ouette, venant ainsi vers lui, un autre groupe d'hommes, si bien qu'il est pris en tenaille, il ne va pas pouvoir s'échapper. Alors il réfléchit, il prend sa décision très rapidement, il pousse son mari dans les boulis qui se trouvent en bas de l'Adrian, et arrivé devant la falaise rocheuse, il sort de sa takuba, son épée, il donne deux grands bouts d'épée, et il taille cette brèche, et le rocher qu'il a dégagé se trouve à 8 km de là, dans l'oued Inzawadden. Et il passe, et les autres, évidemment, abandonnent la poursuite. Voilà la légende d'Elias. Et c'est moi ce qui m'a frappé quand j'ai entendu la première fois, c'est que je trouve que la brèche de l'Adriane, c'est un peu la brèche de Gavarni. Alors, je ne sais pas s'il y a un fond commun de légende, mais enfin, c'est un peu comme ça, quoi. Hein. Voilà, alors, le père de Foucault a aussi fait une grande collecte de poèmes et de proverbes. Alors, il y en a... deux, un qui dit quand tu vois un vieillard monter sur un chameau, ne lui dis pas de bien se tenir, il le sait. Et le deuxième qui pourrait s'appliquer à tous les randonneurs de notre région, quand tu montes la montagne, fais-le doucement. Voilà, merci.
Charles de Foucault à Tamandrasset. Vous venez de suivre une conférence de Jean Subsol, membre de l'Université du Temps Libre de Bayonne, conférence enregistrée le 9 mars 2018 au Musée Basque dans le cadre de l'Université du Temps Libre de Bayonne.